On parlait hier de la Journée mondiale de la prévention du suicide, qui était donc hier 10 septembre. Une journée, c'est mieux que rien, mais c'est un sujet qui mériterait qu'on en parle tous les jours tellement les ravages des enjeux de santé mentale sont énormes et à quel point le suicide devient pour toujours 3 Québécois par jour l'ultime choix. C'est pas évident et je vous avoue que j'ai été profondément troublée par tous les témoignages qu'on a eu l'occasion de recevoir hier pendant l'heure où on en a discuté. Je voulais qu'on parle justement avec une mère d'une jeune femme qui a eu des problèmes de santé mentale, qui malheureusement n'a pas été bien diagnostiquée, n'a jamais été vraiment diagnostiquée, qui s'est ramassée avec des problèmes de toxicomanie et éventuellement dans la rue. Nathalie Renaud et cette mère, elle est avec nous ce matin. Bonjour, Nathalie.
Bonjour, Isabelle. Merci de me recevoir.
Racontez-moi un peu l'histoire de votre fille. Parlez-moi de Catherine.
Bien, en fait, Catherine, c'est un enfant très studieuse et sportive. Là, elle a fait du sport toute sa vie. Puis, elle a été aussi capitaine de son équipe là, dans la région de Saint-Léonard. Elle a fait les Jeux du Québec. Et puis, après le secondaire 5, là, quand elle a eu 18 ans, elle a eu une relation amoureuse qui a duré quelques années, puis auquel elle a mis un terme. Et puis, elle vivait des choses, mais malheureusement, Catherine était très indépendante puis elle parlait pas beaucoup. Mm-hmm. Donc, c'était un peu un âge où elle aurait eu besoin de consulter puis de parler à une personne neutre, de voir un psychologue. Mais à cet âge-là, c'est un peu... c'est pas quelque chose que les adolescents ou les jeunes adultes font normalement. Ça les gêne, ils ont peur d'être jugés. Mmh. Alors, elle s'est tournée un peu à l'aide qu'elle pouvait aller chercher par elle-même. Puis, elle a commencé à consommer. Mmh. Et puis, ça l'a déclenché la maladie mentale. Et elle a comme déboulé dans la consommation par le cannabis, la cocaïne et des drogues plus dures. Elle a été suivie dans les hôpitaux, mais étant donné qu'elle était toujours en mode de intoxiquée, mm-hmm. c'était difficile pour eux de l'évaluer. Donc, elle a vécu les portes tournantes, puis on n'a jamais réussi à avoir un diagnostic. Puis elle a sombré tellement dur dans les drogues qu'elle est morte par surdose.
Mm-hmm. On l'a retrouvée à quel endroit, Nathalie Renaud?
La veille de sa mort, elle était dans un parc dans le coin de la rue Saint-Hubert et Rosemont. Et puis, elle a été abordée par un inconnu qui a bien voulu l'héberger chez lui sur la rue Saint-Hubert. Et puis, elle a été retrouvée aux petites heures du matin. C'est lui qui l'a retrouvée, en fait, inconsciente. Elle était décédée.
Mmh. Ça faisait combien de temps qu'elle était dans la rue, votre fille?
En fait, Catherine, elle a toujours eu sa place à la maison. C'est juste que elle s'isolait. Elle aimait pas que les gens qu'elle aime la voient comme ça. Mm-hmm. Elle voulait pas aussi nous infliger sa douleur ou son mode de consommation. Elle savait qu'on trouvait ça très difficile, mais elle avait un chez-eux. C'est plus qu'est-ce qu'elle vivait dans la maladie puis la consommation qui faisait qu'elle se retrouvait toujours dans la rue ou dans les refuges. Mm. Ça faisait quand même, je vous dirais, les deux dernières années là, que c'était comme ça, là, elle allait d'ami en ami ou refuge en refuge, mais pas capable de venir habiter chez son père ou chez sa mère qui pourtant avait la porte ouverte tout le temps.
On a beaucoup parlé hier donc du manque de services, du peu de ressources en maladie mentale, le fait que c'est encore compliqué. Vous parliez de la difficulté de Catherine de s'ouvrir aussi sur ça. C'est pas toujours facile, hein? Ça reste encore pour certaines personnes et beaucoup de jeunes, un tabou. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes aussi ont de la difficulté à s'ouvrir là-dessus.
Exact.
Et est-ce que vous diriez que Catherine, si elle avait été diagnostiquée, prise en charge sur ses problèmes de santé mentale, l'issue aurait été différente? Êtes-vous convaincue de ça?
Oui. Absolument, parce que Catherine, c'était une fonceuse, c'était une personne très déterminée, positive. il n'y a rien qui m'aurait laissé croire qu'elle n'aurait pas pu s'en sortir. Mm. C'est vraiment qu'elle souffrait. Puis, à chaque fois qu'elle se présentait à l'hôpital, soit qu'on l'ait emmenée de force ou que si elle se présentait par elle-même, parce qu'elle a fait quand même deux tentatives de suicide, quand elle se présentait, on voyait beaucoup plus la toxicomane que de voir la personne malade.
Mm-hmm.
Hein? La maladie mentale, c'est une maladie physique, tout comme un cancer ou une maladie pulmonaire. C'est ça qu'il avait de la misère à voir. Il voyait toujours la toxicomane.
Ah ouais,
fait qu'elle n'était pas prise en charge.
Vous faites partie maintenant d'un groupe, d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement des endeuillés du suicide au Québec, Unis vers l'action. Oui. Vous avez, entre autres, écrit au gouvernement, au ministre de la Santé, Christian Dubé.
Oui.
Vous aimeriez, puis on l'a un peu dit hier aussi, en cette journée de la prévention du suicide, vous aimeriez comme parent qu'il n'y ait plus de Catherine, là, que les jeunes soient pris en charge, qu'ils soient pris
Exactement.
En charge pour leurs problèmes de santé mentale, qui souvent les mènent. L'exemple de Catherine est probant. Il y a une espèce d'enchaînement qui l'a amené dans la rue, qui l'a amené finalement à la surdose. Puis on sait que les surdoses ont beaucoup augmenté là, cet été, entre autres. La présence du fentanyl est en hausse dans les opioïdes. Il y a eu oui. énormément de décès par surdose. Ça vous fait du bien de faire partie de ce mouvement, Nathalie? Qu'est-ce que ça vous apporte?
Mais oui,
parce qu'il y a d'autres parents, j'imagine, qui ont vécu un peu la même chose.
Oui, bien, il y a beaucoup de parents endeuillés de suicide. T'sais, même si Catherine n'a pas été classée un suicide, ils ont dit une surdose accidentelle. Pour moi, c'est un suicide qui est camouflé. C'est un suicide à petit feu. Ça pouvait pas finir autrement que par de mourir de cette façon-là. Elle en prenait tellement de la drogue parce qu'elle voulait pas souffrir qu'elle s'est comme tuée dans un sens, que moi je dis. Puis ces parents-là, c'est tous des endeuillés, soit de suicide ou de toxicomanie, santé mentale. Puis si j'aurais pas ces personnes-là, j'aurais peut-être pas passé au travers. C'est un soutien.
Nathalie, c'est assez douloureux toujours. Ça fait combien de temps que votre fille est décédée?
Ça l'a fait 2 ans, le 16 août dernier.
Oui, c'est ça. Et avez-vous eu des réponses de la part du système? J'allais dire le système, comme si c'était quelqu'un qui existait, là, mais enfin...
Non, à date, on n'a pas eu de retour là, sur la lettre qu'on a envoyée au nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé. Puis, si jamais il est à l'écoute, ou les gens du gouvernement, c'est important de nous répondre. Au moins, on pourrait mériter au moins une rencontre
mm-hmm.
pour leur expliquer. Parce que vous savez que les parents, la famille, c'est les personnes les mieux placées pour pouvoir parler de ça. C'est possible de changer les choses. Ça se fait ailleurs dans le monde. On a tout au Québec pour réussir à diminuer ou même avoir zéro suicide.
Mm.
Que la santé mentale soit prise en charge. On les a toutes les informations, les études de partout dans le monde. Puis au Québec, on pourrait devancer ces gens-là partout dans le monde
mm-hmm.
pour réussir à ce que ça change. On demande seulement une rencontre pour être entendu parce que il faut agir, il faut arrêter de pas investir de l'argent en santé mentale. Puis j'aimerais mieux dire, au lieu de dire maladie mentale, j'aimerais mieux dire maladie du cerveau. Peut-être que dans ce sens-là, les gens vont comprendre que c'est physique.
Ouais. On va enlever le tabou qui est encore par-dessus ce...
Exactement, ouais. Exactement. Mm-hmm.
Nathalie, vous restez avec nous, bien sûr, parce que après la pause, va se joindre aussi à nous l'abbé Paradis, l'abbé Claude Paradis, le curé de la rue qui travaille beaucoup auprès des clientèles itinérantes, mais aussi des toxicomanes et qui va pouvoir nous dire, parce qu'il est assez exceptionnel, il fait des cérémonies pour tous ceux qui sont oubliés dans la société. Et la semaine prochaine, mercredi, il y aura une célébration. On va rendre hommage à tous ces personnes qui se malheureusement qui sont mortes dans la rue à cause de problèmes de santé mentale, à cause de problèmes de consommation de drogues de toutes sortes. On va lui parler après la pause, mais j'aimerais aussi avoir vos témoignages si vous avez été touché par celui de Nathalie Renaud qui parlait de sa fille Catherine, 24 ans, une jeune femme magnifique qui avait toute la vie devant elle, mais qui avait un problème de santé mentale qui l'a amenée à consommer, qui l'a amenée dans la rue et qui l'a finalement précipitée vers un décès en surdose de méthadone et de cocaïne. J'aimerais vous entendre là-dessus. Ce cri d'alarme-là, il y a beaucoup de parents là, qui le font entendre également. Si vous avez eu l'occasion d'aider un proche, si vous souhaitez aider un proche qui a des problèmes de toxicomanie, de drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être toutes sortes de... Ça peut être les médicaments aussi, les antidouleurs. Tu sais, on parlait des médecins qu'on n'a pas le temps de voir. Des fois, on s'auto-diagnostique nous-mêmes. On est obligé de se prendre toutes sortes d'autres médicaments. Il y a plein de médicaments maintenant qu'on peut trouver sur Internet. Tout est possible. Et malheureusement, c'est pas toujours les meilleures choses à faire. Dites-moi si vous avez essayé d'aider quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'être aidé. 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. On a entendu le cri du cœur de Nathalie Renaud, dont la fille Catherine est décédée d'une overdose, d'une surdose de méthadone et de cocaïne. On l'a retrouvée chez un inconnu. Et bien sûr, elle avait des épisodes où elle était dans la rue. Elle arrivait après à redonner des nouvelles, soit à son père, ses sœurs ou à sa mère, Nathalie. Elle venait les voir, puis elle repartait dans la rue. Et il y en a beaucoup de jeunes qui vivent comme ça, des allers-retours dans la rue, qui sont toxicomanes, qui sont, comme nous le disait Nathalie Renaud, jugés, rejetés par la société pour toutes sortes de raisons. Mais souvent, puis on en revient souvent à ça, c'est parce qu'il y a des diagnostics qui n'ont pas le temps d'être posés. On ne s'occupe pas assez des problèmes de santé mentale. Farid est un auditeur qui nous appelle. Bonjour Farid.
Bonjour, madame. Vous allez bien?
Oui, vous pouvez en témoigner, vous, de ça, Farid. Vous-même avez été...
Moi-même, je l'ai vécu. J'étais malade. Ça, c'est du stress et de l'anxiété que j'ai... Bon, ça m'est tombé sur la tête en 2018. Mm-hmm. Et grâce à Dieu et aux personnes qui m'ont entouré, surtout ma femme, ma psychologue que j'apprécie beaucoup, qui m'a apporté beaucoup d'aide. Mm-hmm. Mais malheureusement, ce que je déplore, qui me fait toujours mal à ce moment-là où je vous parle, c'est mon employeur et les assurances. Même pas une seule fois, un appel juste pour dire comment vas-tu.
Ah ouais.
Ça, c'est pour l'employeur. Les assurances, au bout de 2 semaines de début de maladie, on était dans la phase de, d'investigation. On a fermé mon dossier carrément. Sachant que je suis un père de famille et je suis resté sans ressources pendant plus d'un mois et il a fallu que je fasse des plaintes pour faire valoir mes droits.
Ah ouais, Farid, il y avait des gens hier qui nous appelaient pour nous dire que ce qui les avait aidés, entre autres, c'était leur programme d'aide aux employés. Fait que c'est sûr qu'il y a des endroits, c'est magnifique, l'employeur va t'aider, mais il y a d'autres endroits où... Ce que vous nous dites, là, c'est que vous, dans votre cas, ça n'a pas été une aide du tout. Et les assurances, ça, c'est sûr que c'est pas connu pour avoir beaucoup de cœur. Hein?
Ben voilà, c'est ça le problème. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on vit dans un pays là où on a des droits et des obligations. Mm-hmm. On observe nos obligations, mais il y a un minimum de droits. Pourquoi laisser toutes ces compagnies faire ce qu'elles veulent et le gouvernement ne fait rien? Quand on pose la question, on me dit « c'est plate, mais c'est comme ça ». Mais non, tout le monde parle. Les publicités, belle cause pour la cause. Là, quand j'entends ça, j'éteins carrément la radio. Ouais. On nous parle, oui, de la maladie mentale, mais en fin de compte, ils sont là.
Il n'y a pas assez d'action. Ouais. Merci Farid, merci beaucoup de votre témoignage. Pierre nous appelle. Bonjour Pierre.
Bonjour.
On vous écoute.
Vous m'entendez?
Oui, on vous entend très bien.
Parfait. Moi, j'ai ma belle-sœur qui est aux prises avec sa fille, comme ça, là, une fille de 30 ans, 34 mm-hmm. ans. Ça fait plusieurs fois là, qu'elle fait ça. Puis elle est diagnostiquée schizophrène.
Ouais.
Là, sa mère, elle l'a ramenée proche d'elle, fait qu'elle a changé de médecin. Là, elle a changé de médecin. Juste pour changer de médecin, ça a été compliqué. Puis ils ont enlevé ses médicaments. Avant, elle était sous médication.
Ouais.
Là, ils ont coupé les médications. Là, pour être capable d'en revoir un médicament, il faut que la personne, la fille, il faut qu'elle s'en aille faut qu'elle veuille y aller. Mm-hmm. Si elle ne veut pas y aller, sa mère, elle a beau y dire, mais je veux dire...
C'est, on peut pas les forcer, là. Oh non, effectivement.
Non, on peut pas les forcer. Puis en pire que ça, parce que sa mère, elle a voulu aller en cours pour dire qu'elle doit être vue par deux médecins pour être diagnostiquée encore une fois, pour être capable d'avoir sa médication.
Ouais.
Mais si la personne, la jeune, elle veut pas, là, la fille, elle veut pas, là, il n'y a rien à faire parce qu'ils vont dire, ben, elle est adulte, c'est elle qui va prendre sa décision.
Ouais.
Imaginez-vous, là, la mère est allée témoigner. C'est dur de dire que faut que tu ailles à l'hôpital, tu as besoin d'aide. Fait que c'est dur pour une mère de dire, hey, faut que je parle contre ma fille pour être sûr qu'elle va être de se faire guérir.
Oui, tout à fait, c'est vrai. Ouais, merci. Merci, Pierre, effectivement. Nathalie, Renaud, ce que Pierre vient de nous dire, là, vous avez vécu un peu ça?
Oui, je l'ai vécu. On a été en cours au moins deux fois. T'sais, on a passé par la P38. Mais malgré le fait qu'on le faisait, Catherine, elle n'a jamais été gardée plus que 48 heures à l'hôpital.
Oui, c'est ça. Les portes tournantes, comme vous disiez tout à l'heure, ça rentre, ça sort, mais on ne les garde
pas. C'est pour
ça
que dans la lettre qu'on a envoyée au ministre Christian Dubé, on demande que les parents, la famille, soient vraiment impliqués dans le processus des soins de la personne malade.
Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Je vais donner la parole à l'abbé Claude Paradis, que j'appelle le prêtre des sans-abri parce qu'il fait tellement pour les gens qui sont dans la rue, qui sont avec toutes sortes de problèmes, Claude Paradis. Merci d'être là. Je voulais vous donner la parole et l'occasion de parler de ça parce que mercredi prochain, le 16 septembre, à 2h, à 14h de l'après-midi, à la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal, vous allez célébrer une messe, une cérémonie de la vie, comme vous dites, pour tous ceux qui sont décédés de surdose cet été. Et il y en a eu beaucoup, Claude.
Oui, effectivement. Merci que vous me donniez la chance de parler sur ce sujet. Bonjour, Nathalie. Écoutez, quand les gens décèdent dans un parc ou dans une ruelle, c'est toujours des morts assez... c'est violent comme mort. C'est pas... tu meurs d'une surconsommation de drogue, tu meurs d'un arrêt respiratoire, et les gens décèdent dans des ruelles sans personne pour les mettre au tombeau. Alors moi, c'est mon rôle de faire ça une fois par année, les déposer en paix, en sérénité. Qu'ils n'y ont pas eu lorsqu'ils sont décédés. Pour moi, c'est vraiment important pour la dignité de la personne humaine.
Il y en a eu beaucoup cet été, hein, Abbé Paradis?
Une cinquantaine de jeunes à cause du fentanyl. Là, ils font des arrêts respiratoires. Ce n'est pas des arrêts cardiaques, mais c'est des arrêts respiratoires. Et il faut. Nous, on a toujours le petit kit là, de naloxone pour. Contrer si quelqu'un a consommé du fentanyl là, pour les refaire respirer. Là.
C'est un vaporisateur nasal, c'est
nasal,
ça? Que,
ouais. Exactement ça qu'on a toujours sur nous. Faut prévenir, on ne sait jamais. Hein.
Vous avez eu l'occasion de vous en servir cet été, Claude?
Moi, non. Je connais des gens, oui.
OK. Mais moi, ça, il faut que ça soit administré assez rapidement, par exemple. Hein. Je pense
on a
les...
3-4 minutes.
Sinon, la personne meurt?
Elle risque de faire un arrêt respiratoire, oui. Puis là, vu que les frontières étaient fermées, alors la drogue est rentrée lentement à Montréal. Les producteurs, les fabricants de drogue coupaient beaucoup, disons, l'héroïne, la coke avec le fentanyl, qui coûte rien à faire dans l'industrie là, clandestine, disons, dans les laboratoires. Alors, on coupe avec ça, qui coûte presque rien, pour égaler le même nombre qu'on vendait habituellement, le même nombre en argent, sauf que ben les gens ont fait des surconsommations de drogue cet été.
Ouais.
Et un autre phénomène aussi, c'est que, ça on n'y pense pas, mais le jeune, disons qu'il y a du bien-être, reçoit à peu près 600$ par mois. Il va consommer 3-4 jours, il va louer une chambre d'hôtel, il va consommer 3-4 jours. Mais cet été, ces gens-là ont eu des 2 000$ du gouvernement. Alors, ils consommaient durant tout le mois. Et là, le cœur et les poumons, ils ne peuvent pas suivre. Là.
Ah, il a fait qu'il y avait des jeunes de la rue qui recevaient la PCU
oui.
et qui se sont payés leur drogue avec ça. Là.
Exactement.
Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce qu'en plus, Claude, de faire des cérémonies comme ça, vous passez beaucoup de vos nuits encore à essayer d'aider ces gens qui sont dans la rue, sans ressources. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est rendu là? Est-ce que c'est possible de sortir cette personne-là de la rue, si c'est un jeune ou un moins jeune?
Moi, je dis qu'il n'y a jamais personne qui est irrécupérable. Je ne crois pas ce mot-là. Alors oui, il y a toujours moyen, on peut en sortir. De toute façon, on en sort. Alors, c'est possible d'en sortir. Il faut juste être très, très près d'eux, les écouter. Ils ont tellement besoin de parler, de se dire. C'est énorme. On a juste avoir besoin d'une bonne paire d'oreilles, puis c'est déjà beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup des oreilles comme vous, là. Vous êtes une petite brigade.
Oui, malheureusement, oui.
De bénévoles aussi. Ouais. Puis bon, vous êtes un prêtre. Alors, vous avez vécu ça, Abbé Paradis. Oui, fait que vous êtes bien placé pour en parler.
Oui, j'ai connu la coke, j'ai connu toutes ces drogues dures-là, moi, à l'époque. J'ai fait la rue, moi aussi. Alors, j'ai vraiment connu ça. Je m'en suis sorti.
Mais il n'y avait pas de fentanyl à l'époque, hein? Il n'y avait pas autant
Il n'y avait pas ça. Non. Il n'y avait rien de ça à l'époque.
Et ça change la donne complètement, ça?
Complètement. Écoutez, le jeune qui était l'été, exemple, il faisait 30$, 35$, il veut s'acheter une bouteille d'eau au dépanneur. Il ne peut pas se l'acheter parce qu'il n'y a pas de carte. Le dépanneur ne prenait pas l'argent. Le seul marché qui prenait l'argent, c'était le marché de la drogue. C'est fou, hein?
Incroyable.
C'est le seul marché cet été qui a pris de l'argent comptant.
Ah ouais.
Alors, vous voyez, hein, on est loin. Hein?
Mercredi, parlez-moi de cette cérémonie qui va avoir lieu à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Est-ce que tout le monde peut y aller, Claude?
Oui, bien sûr.
On a du temps à 2 heures de l'après-midi, on peut aller assister à votre cérémonie.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Moi, j'ai une fleuriste, je ne sais pas si je peux nommer son nom.
Mais allez-y.
Oui, Dame d'Alcantara,
ouais.
Qui me fournit une rose par personne qui est décédée.
Mm-hmm.
Alors, moi, je vais nommer les noms de chaque personne, et là, on va les déposer une rose. Et j'ai aussi le cimetière Saint-François d'Assise, qui, eux, s'occupent des enterrements, de l'incinération, et à la fin, ils vont offrir une petite boîte à lunch pour tous les participants, pour tous ceux qui seront dans l'église. On pourra manger après là et parler ensemble aussi.
C'est important. Il y aura
Monseigneur Lépine qui va être là aussi.
Monseigneur Lépine va être là. Ah, c'est important de le dire.
Il a accepté d'être là. Alors c'est lui qui va être là. Moi aussi là, je vais être là bien sûr. Là. Il y a un gars de la rue qui va venir chanter. Qui a une superbe belle voix le gars, mais il est pas connu. Mais moi je le connais. Alors il va venir chanter. Ensuite, j'ai le groupe Terre Promise. C'est un couple avec 3 enfants qui jouent du clavier, du drum, guitare électrique, guitare sèche.
Fait que ça va être une belle cérémonie pour rendre hommage à toutes ces vies qui auraient mérité d'être plus longues, mais qui se sont terminées de façon abrupte dans la rue à cause souvent d'enjeux de santé mentale non diagnostiqués, mal pris en charge et qui a amené à une consommation de drogue. Merci beaucoup de faire ça, Abbé Paradis. Puis vous me permettez, je vais faire un petit peu mon travail de marraine de votre organisme Notre-Dame de la Rue, parce qu'on a toujours besoin, bien sûr, des dons des gens, n'est-ce pas, Claude?
Oui, toujours.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider votre organisme Notre-Dame de la Rue?
On peut aller sur le site du diocèse Notre-Dame de la Rue et tout est là. Si vous pouvez, vous pouvez aussi donner un don par carte de crédit, peu importe. On émet des reçus d'impôts. À chaque personne qui fait un don, ils ont reçu d'impôts. Alors, on peut tout simplement aller sur le site du diocèse et c'est très facile.
Merci beaucoup de faire ça. J'aurai l'occasion de le rappeler mercredi prochain. Merci beaucoup, Abbé Claude Paradis. Merci bien, Abbé Paradis. Il est formidable. Je ne le dirai jamais assez. Ce gars-là est un saint. Il s'appelle Paradis. Il est proche du bon Dieu. En tout cas, il n'est pas loin, je vous le jure. Nathalie Renaud, d'ailleurs... je termine. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir pris la peine de témoigner. Je sais que vous êtes beaucoup interpellée par ce que fait l'abbé Paradis. Vous allez l'accompagner aussi. Vous allez être là, bien sûr, mercredi.
Oui, je vais être là mercredi. Puis si ça n'aurait pas été, vous savez, pendant la période de deuil de Catherine, j'ai rencontré l'abbé Paradis. Puis je vous dirais, pendant des mois, il m'appelait presque à tous les jours pour me demander si j'allais bien, puis prendre des nouvelles. ça a été beaucoup, beaucoup pour moi, ça. Puis je suis restée proche, je suis restée en contact, puis on se téléphone encore, fait que... C'est vraiment, il est proche du paradis, comme on dit.
Merci beaucoup, Nathalie Renaud. On va se voir mercredi prochain. On va se voir mercredi. Merci bien. J'espère que ça vous a fait du bien d'entendre ça. Il y a quelque chose de... Oui, c'est extrêmement dramatique, ce qu'on vient d'entendre. Mais en même temps, il y a quelque chose d'inspirant parce que mercredi prochain, si vous avez le temps, ça serait tellement un beau message d'envoyer au gouvernement qui doit absolument agir sur la santé mentale et l'itinérance. Là. Je vous ai même pas parlé des cas des Autochtones là, qui sont vraiment dans la rue, puis qui ont des gros problèmes de toxicomanie, là, puis qu'on a tendance à oublier. Mais mercredi, 14h, si vous pouvez mettre ça à votre horaire, on pourrait tous se rendre à la cathédrale Marie-Reine du Monde, assister à cette cérémonie, religieux ou pas, juste en hommage à ces vies perdues, qui méritaient pourtant d'être beaucoup plus longues que ça. Je voulais vous dire ce message-là. Tout de suite après la pause, un autre modèle très inspirant. Vous savez à quel point, au hockey, on ne dit pas qu'on est gay hein, quand on lit. C'est le genre de l'ultime tabou de l'homosexualité. Le hockey, sport encore macho. Vous me direz comment vous voyez ça. J'ai une belle histoire. Un jeune de 17 ans qui a pris son courage à deux mains et qui est sorti du vestiaire. À tout de suite, tout le monde.